L'invité du matin.
Et mon invité ce matin, c'est le commissaire général Richard Marlet. Bonjour Richard.
Bonjour.
Alors ça me fait plaisir encore de vous avoir ce matin. Vous serez ce soir au cinéma Les Baladins en présence de Jacques Pradel et Jean-Marc Blotte pour revenir sur l'affaire Esquin et Guy Georges. Mais on va parler aujourd'hui avec vous de vos livres, hein, puisque vous êtes aussi auteur. Mais avant de parler de ce festival, de vos romans, forcément, avec le décès de la reine, j'ai envie de revenir sur la mort de Lady Di, car à cette époque, vous étiez au 36 Quai des Orfèvres.
Ah oui, exactement. Et en fait, si vous voulez, j'étais tranquillement chez moi lorsque j'ai reçu un appel de mon service en disant, voilà, il vient d'y avoir un accident de la route et la victime, c'est Lady Di. Voilà, et donc à ce moment-là, tout se met en place. Hein.
Ouais.
Faut retourner très très vite au service pour, donc au Quai des Orfèvres, faut mettre en place les différentes équipes, les photographes, les dessinateurs. Et à un moment, si vous voulez, je vais vous faire une confidence, hein, je pense que j'ai été l'homme le plus riche du monde parce que on était à l'époque de l'argentique, hein, j'avais peut-être 40 rouleaux de 36 poses de mes photographes,
ouais,
plus tous les rouleaux des paparazzis.
D'accord.
Et donc, en fait, on a tiré tout ça. Vous savez, on avait un laboratoire argentique. Ça représentait des milliers de clichés. Enfin, voilà. Donc, ça a été, comment vous dire, un petit peu de pression. Je crois que c'est l'accident de la route qui m'a collé le plus de pression de toute ma carrière.
Oui, c'est sûr. Et comment ça se passe? La reine est au courant rapidement
Et si vous voulez, donc il y a différents canaux qui se mettent en place. Hein. Il y a donc évidemment la brigade criminelle qui est saisie en raison de la personnalité des victimes.
Mmh.
Et puis après, vous avez les canaux politiques et diplomatiques qui se mettent en place. Et pour la police judiciaire, elle a qu'un souci, en fait, c'est de faire au mieux, au plus vite, pour essayer d'élucider toutes les questions qui peuvent se poser quant à l'origine de l'accident.
Vous allez sur les lieux rapidement?
Le plus rapidement possible, oui. Si vous voulez, c'est ce que j'essaye d'expliquer à chaque fois, c'est que, en fait, les gens qui font de la police technique et scientifique, en fait, arrivent très très vite, vous savez, avec nos sirènes, nos lumières, on arrive très très vite, mais en fait, on va commencer à travailler une fois que tous les secours, secouristes, pompiers, auront terminé leur travail, et toutes ces heures, ça peut durer des heures évidemment, hein, toutes ces heures en fait on ne travaille pas et on est là à absorber des images.
D'accord. Ouais.
Voilà, et en fait ce sont ces images-là qui vous restent. Une fois que vous allez commencer à travailler, faire vos photographies, vos prélèvements, vos plans, là vous rentrez dans vos habitudes de travail. Donc en fait tout ça passe derrière, vous avez un objectif, hein, c'est de travailler au mieux, au plus vite. Mais toute la période en fait où vous êtes juste des voyeurs, ça c'est probablement la période la plus difficile.
Ouais, et parce que forcément il faut aussi empêcher, c'est la police qui empêche tous les paparazzi, tout ça.
Bien sûr, évidemment, la mise en place des cordons de sécurité est fondamentale, parce que le souci premier en matière de police technique et scientifique, là avec l'accident de Lady Di, c'est un tout petit peu différent, hein. Mais le premier souci en fait c'est d'éviter toute pollution, toute contamination des choses qu'on va avoir à prélever, et donc vous avez la mise en place souvent de plusieurs secteurs, et le dernier secteur en fait n'est réservé qu'aux hommes en blanc.
D'accord. Alors on va revenir maintenant sur le festival du Polar et vos romans. Déjà, qu'est-ce qui vous a décidé à rejoindre l'équipe du festival?
Ah, écoutez, je vais participer aux deux premiers salons, hein, le premier comme auteur, et puis le second comme conférencier. J'avais fait quelque chose moi qui me plaisait beaucoup parce que j'adore la littérature et notamment la littérature policière, et j'avais fait une conférence sur le thème policier de roman, policier de laboratoire.
D'accord.
Et puis, c'est au début de cette année, en fait, Pascal Pierre-Tissier m'a demandé de rejoindre le conseil d'administration. L'idée, c'était de monter un tout petit peu en puissance et notamment d'avoir des invités un peu de prestige.
Mmh.
Et très vite, j'ai pensé à mes deux amis, Jacques Pradel et puis Jean-Marc Bloch, pour la première année de ce festival, lui donner un attrait différent. Voilà, et donc en fait, c'est ça qui est formidable, parce que ça fonctionne uniquement sur l'amitié.
Ouais.
J'ai passé deux coups de téléphone, et en fait, j'ai eu deux avis tout de suite favorables de mes deux amis, Jean-Marc et Jacques.
D'accord. Alors, vous êtes conférencier, donc vous donnez beaucoup de conférences. Est-ce que c'est dans le but aussi de partager vos passions?
Bien sûr que oui. En fait, le tour de force, le paradoxe de ma vie, c'est que avec ma licence de lettres classiques, ma maîtrise d'archéologie étrusque, à part l'enseignement, passer le CAPES et l'agrégation, je voyais pas d'autres perspectives. Et en fait, là encore, une nouvelle confidence, vous en saurez beaucoup sur moi, hein. La prise de parole en public m'effrayait. C'est-à-dire qu'enseigner le latin et le grec, ça allait parce que vous êtes à peu près aussi nombreux que les élèves.
Ouais.
Mais enseigner la littérature devant une classe de 30, ça me terrorisait. Et j'avais un frère aîné, donc qui lui était un chef emblématique de la BRI, l'anti-gang, hein, des années Broussard, Mérine, etc., etc.
Ouais.
M'a fait rencontrer un ami à lui qui travaillait à l'Office central de répression du vol des objets d'art. Je me dis, ça doit être chouette comme boulot. Donc j'ai passé le concours d'inspecteur. Puis après, mon frère m'a inscrit au concours de commissaire que j'ai eu. Et voilà, au fil de la carrière, j'ai découvert la police technique et scientifique. Et puis... on m'a demandé d'enseigner à l'Institut de criminologie et moi qui étais terrorisé par une classe de 30, j'ai enseigné en amphithéâtre. Et puis après, il y a eu le CNAM et puis avec la presse, la télévision, c'était un peu pareil. Je me disais, mais je vais m'évanouir, moi, devant une caméra et un micro.
Ouais.
Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était extrêmement intéressant d'observer le métier de tous ces gens-là, le preneur de son, le cadreur, le journaliste. Voilà, en fait, tout ça, c'est de la curiosité.
Oh, on vous a vu souvent sur BFM TV, vous intervenez encore ?
Non, parce qu'en fait, il y a eu le Covid.
Ouais.
Je me suis définitivement installé en Bretagne.
D'accord.
Et alors, ma connexion Internet est catastrophique.
Oui, d'accord.
Donc, en fait, tout ce qui on peut faire en distanciel, m'est pour l'instant interdit. Donc, lorsque j'ai la chance d'être à Paris et que on me sollicite, j'aime beaucoup aussi parce qu'en fait ça permet d'expliquer un certain nombre de choses, de faire comprendre que la police et notamment la police technique et scientifique, c'est compliqué, ça demande du temps, le temps de la police judiciaire n'est pas celui du temps médiatique, donc j'adore en fait expliquer les choses.
Alors, on va parler de vos romans, et en particulier de Petit Manuel de la Brigade Cynophile. Alors, c'est une réédition augmentée et enrichie du livre Profession chien policier.
Exactement.
Le chien n'est pas uniquement le meilleur ami de l'homme.
Ah non, mais là aussi, c'est formidable, si vous voulez. Il se trouve que mon père était gardien de la paix et mon parrain était notre chien. Et lorsque le premier éditeur m'a demandé si je voulais faire quelque chose sur le chien policier, en fait, c'est en songeant à eux, tous les deux, que j'ai écrit ce livre. Et si vous là aussi, j'ai découvert un univers. Comment ces gens-là, ces gens-là, oui, pour moi, sont des collègues. Donc, comment ils sont recrutés, comment ils sont formés, comment on en arrive à des spécialités, le chien stup, le chien explo, le chien d'avalanche, le chien d'attaque du raid, et évidemment, pour la police technique et scientifique, le chien de reconnaissance d'odeur corporelle.
Et les chiens, finalement, ils sont pas arrivés tout de suite dans la police ?
Non, alors après, si vous voulez, il y a toute une partie de ce petit livre que j'adore, parce qu'il est... j'ai revu toutes les illustrations, j'ai eu la chance d'avoir un graphiste formidable, en fait. Donc, il y a toute une partie historique, donc depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, pour résumer un petit peu, hein, et je parle des premiers pas du chien dans la police, et c'était notamment à Paris, et en fait, c'est pas les premiers pas, sont plutôt des premières brasses, c'est-à-dire que les premiers chiens qui ont été recrutés, c'était des chiens qui étaient recrutés pour la brigade fluviale, et qui étaient chargés d'aller récupérer les gens qui se jetaient dans la Seine.
D'accord.
Et puis petit à petit, en s'inspirant notamment d'expériences faites en Belgique, les premiers chiens, cette fois, de recherche, de piste, maintenant on appelle ça de défense et d'intervention, sont rentrés dans la police et puis on a découvert leur potentialité grâce à leur odorat, hein, en matière de stupéfiants, d'explosifs, de pistes, d'armes et munitions, de recherche d'éléments corporels, enfin voilà, c'est tout un univers.
Et quels chiens sont les plus utilisés ?
Alors c'est beaucoup des Malinois.
D'accord.
Et après, si vous voulez, là aussi, ça m'amuse beaucoup. Je sais par exemple que les douanes, eux, utilisent plutôt des chiens de petit format, des caniches.
D'accord.
Parce qu'en fait, c'est extrêmement facile pour eux de se déplacer à travers les bagages dans les aéroports.
D'accord. Et alors, on le sait, hein, le chien sacrifie parfois sa vie pour l'homme.
Oui, complètement. Et là aussi, j'ai tenu à rendre hommage à tous ces chiens qui se sont sacrifiés. Donc je fais quelque chose sur Diesel qui a été tué lors de l'assaut qui a été donné par le raid à Saint-Denis. Je rends hommage aussi à Pacha qui est le premier chien décoré pour acte de courage et de dévouement. Quand j'ai écrit le livre, je me suis retrouvé au raid. Ouais. Et quelques jours auparavant, un de leurs chiens, qui s'appelait Frax, a été très très grièvement blessé par un forcené qui lui avait tiré une décharge de chevrotine dans la tête et il avait perdu sa mâchoire inférieure. Et vivre avec les collègues du chien, enfin pour eux c'était un collègue qui était au tapis. Hein, donc il y a quelque chose qui est extrêmement fort entre le lien entre le maître et son chien. Et ça m'intéresse beaucoup.
Ce sont des chiens exceptionnels qui sont recrutés forcément.
Alors, si vous voulez, la police n'a pas beaucoup de moyens, donc souvent, quand elle peut récupérer des chiens chez des éleveurs, c'est formidable parce qu'il y a déjà un travail qui a été fait. Ouais. Mais souvent, ce sont des chiens qui ont été abandonnés à la SPA et peut-être parce qu'ils avaient des personnalités un peu fortes. Donc on récupère ces chiens-là et on les forme.
Et les chiens, vous l'avez dit tout à l'heure, ils reçoivent aussi des médailles.
Oui, ils sont assez régulièrement. Moi, je trouve pas assez. Hein. Je trouve que la gendarmerie là-dessus est meilleure que la police nationale. En fait, les gendarmes récompensent plus souvent, décorent plus souvent leurs chiens. Moi, je trouve qu'il faut leur rendre hommage. Je me félicite aussi de voir des institutions qui se montent pour accueillir les chiens au moment de leur retraite. Ouais. Voilà, un chien a une durée d'exploitation, entre guillemets, évidemment, dans son métier, qui est de 8 à 10 ans, pas plus. Et voilà, donc après, ce chien, faut s'en occuper. Donc souvent, les maîtres les adoptent, mais lorsqu'ils en ont adopté un chien, deux chiens, je veux dire, ça a des limites, tout ça. Donc il y a des institutions qui se montent pour récupérer des espèces de maisons de retraite pour chiens de police. Et je pense qu'il faut absolument encourager toutes ces initiatives.
Dans ce livre, il y a un terme qui s'appelle donc l'odorologie. Qu'est-ce que
oui.
c'est ?
Alors l'odorologie, c'est quelque chose qui naît dans les pays de l'ancien bloc de l'Est. En fait, c'est la reconnaissance des odeurs corporelles. Pour faire simple, hein, on prélève des odeurs sur les objets, les sièges, je sais pas, un levier de vitesse dans un véhicule, tout ce qui a pu être touché. On prélève des odeurs avec des cotons.
D'accord.
On met tout ça dans des bocaux. Et puis lorsqu'on a un suspect, en fait, on lui fait lui aussi malaxer des cotons. Et après, on passe à une parade d'identification, c'est-à-dire que au chien, on lui fait renifler l'odeur qui a été prélevée sur la scène de crime. On le fait rentrer dans une pièce dans laquelle il y a 5 bocaux. Un contient l'odeur du suspect et le chien va associer très rapidement, ça prend quelques secondes, va associer l'odeur prélevée sur la scène de crime à l'odeur du suspect.
D'accord.
Après, on le fait sortir, on change le bocal de place, on le fait revenir, il le retrouve. Après, donc, on enlève le bocal du suspect, il y a toujours 5 bocaux, mais il n'y a plus d'odeur de suspect. Là, le chien ne marque absolument pas, c'est-à-dire pour marquer la correspondance, il se couche devant le bocal. Là, il ne se couche pas. Et en fait, on renouvelle l'expérience avec un deuxième chien. Et lorsqu'on a eu 2 reconnaissances positives et 2 non-reconnaissances, on peut valider en disant, voilà, cette odeur prélevée sur la scène de crime correspond bien à l'odeur du suspect.
Ah, c'est super intéressant, en tout cas. Donc ça, c'est un livre qui vient de sortir ?
Il est sorti exactement au mois d'août, à l'occasion du festival de Pornic qu'organise mon ami Jean-Marc Bloch.
Et que vous dédicacerez donc, je suppose, dimanche.
Et nous les dédicacerons même un tout petit peu avant, le samedi à Domitis, à partir de 10h30. Jacques Pradel, Jean-Marc et moi-même dédicacerons nos livres. Et puis, évidemment, toute la journée de dimanche.
Alors, dernière chose, en octobre, vous allez sortir un autre livre, « Mort, qui es-tu ?». Alors, c'est un livre consacré à l'identification des victimes. Est-ce que c'est compliqué d'identifier des victimes ? Je suppose qu'il y a plusieurs étapes.
Alors, si vous voulez, moi, j'ai tenu à faire quelque chose donc, qui explique, là encore, l'identification des victimes de catastrophes et que j'avais sous-titré « À la croisée de la police technique et scientifique et des sciences médico-légales » pour essayer de montrer toutes ces sciences qu'on utilise pour essayer d'identifier des victimes d'un crash d'avion, d'une catastrophe comme le tsunami, donc des victimes dont la reconnaissance est assez difficile. Donc on passe par les empreintes digitales, le profil génétique, les empreintes dentaires, enfin voilà. Donc j'essaye de montrer un petit peu tout ça, comment en suivant des protocoles extrêmement bien établis par Interpol, comment on parvient à l'identification. Et j'ai recueilli des témoignages de gens qui avaient fait le tsunami, qui avaient fait le tunnel du Mont Blanc. Un ami à moi aussi qui est un grand médecin légiste qui s'appelle Michel Durigon, qui est un des pionniers de l'identification des victimes de catastrophes. Et puis surtout, et encore, le témoignage d'une psychologue qui, elle, comment dire, débrief les gens qui reviennent de mission, parce que là aussi, les images auxquelles ils ont été exposés sont des images particulièrement dures, ça dure très longtemps, et donc en fait, il faut veiller à ce qu'ils s'expriment, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime.
Parfois, on n'arrive pas à identifier la personne.
Alors, ça aussi, c'est étonnant. Très longtemps après le 11 septembre, on continue à identifier, c'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines de milliers de prélèvements qui ont été faits. Voilà, on est le matin, donc je vous laisse imaginer. Hein. Ouais. Et en fait, on arrive encore à identifier, notamment grâce à l'ADN, hein, des victimes du 11 septembre.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas Richard Marlet d'avoir été ce matin une nouvelle fois sur Millennium. Vous serez donc au festival du Polar Rose Noir de Perros-Guirec, dont ce soir au cinéma Les Baladins, en compagnie donc de Jacques Pradel et Jean-Marc Bloch. Vous serez à Domitys samedi. Et puis dimanche, on vous retrouve donc au Palais des Congrès.
C'est exactement ça.
Voilà, merci beaucoup Richard.
Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée,
bientôt.
Au revoir.
Au revoir.